Ce que l'on peut constater, c'est que donc il y a bien ces faits prodigieux accomplis par Jésus, mais rien n'est, le Coran ne raconte pas les circonstances de ces faits, ni l'attitude de reconnaissance ou de non-reconnaissance des bénéficiaires de ces miracles. Ils sont simplement évoqués comme en passant. Et le Coran ne retient rien de l'enseignement du Christ. Le Coran ne dit jamais le Christ. Il est toujours question de Jésus. Je vous dirai après un mot sur son nom. Par exemple, dans le Coran, il n'y a pas les paraboles qui sont si importantes pour nous, hein, pleines d'enseignements. Et il n'y a pas non plus le sermon sur la montagne, les béatitudes. Alors le Coran explique que Jésus a pu accomplir ces actes qu'aucun homme ne peut accomplir parce qu'ils étaient nécessaires pour les besoins de sa mission. Et ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'à chaque fois que le Coran évoque ce genre de faits prodigieux accomplis par Jésus, il fait toujours suivre cette évocation par la formule suivante, c'est que Jésus n'a pu les accomplir qu'avec la permission de Dieu. Avec la permission de Dieu. Pour montrer, évidemment, que Jésus n'a pas en lui la puissance divine pour accomplir de tels actes. Alors, on parle de miracles, on parle de prodiges. Pour les actes accomplis par le Jésus coranique, je préfère parler de prodiges plutôt que de miracles. Il me semble qu'un miracle, ne s'impose pas. Il édifie, bien sûr, mais il laisse l'homme libre de réagir. Face à, et d'ailleurs, on le voit bien dans l'Évangile. Tandis que le prodige, il s'impose à la liberté de l'homme. Il y a une sorte de contrainte dans le prodige. C'est pourquoi, pour ce qui concerne les actes accomplis par Jésus dans le Coran, je préfère parler de prodige plutôt que de miracles. Jésus, lorsqu'il a accompli des miracles, il a toujours laissé les bénéficiaires libres de le suivre ou de ne pas le suivre. Il y a, dans le miracle, je dirais qu'il y a une dimension de gratuité qu'il n'y a pas dans le prodige. Dans la logique qui veut que Jésus soit une créature comme les autres, le Coran, quand il donne son nom, le fait toujours suivre du nom de sa mère. Il est toujours dit « Jésus, fils de Marie ». Le nom de Jésus n'est jamais isolé. C'est toujours « Jésus, fils de Marie ». C'est une manière d'insister sur sa généalogie seulement humaine. Alors, Jésus, dans le Coran, en fait, c'est « Aïssa ». I2SA. Vous allez voir que finalement, ce n'est pas le même Jésus que celui auquel nous croyons. Aïssa, c'est un mot arabe dépourvu de toute signification. Dans la Bible, Jésus, c'est Dieu sauve. Dieu sauve. Le sens du nom de Jésus, c'est Dieu sauve. En hébreu, on dit Yeshua. Hein, Yeshua. Y-E. C-H-O-U-A-H. Au temps de Jésus, les gens parlaient l'araméen. Et en araméen, Dieu sauve se dit Yasou. Y-A-S-O-U-H. Yasou, c'est la traduction araméenne de Yeshua. Ça a exactement la même signification. Nous savons que les personnages bibliques, enfin que le nom des personnages bibliques signifie à la fois l'identité et la vocation de celui qui le porte. Donc Jésus, Dieu sauve. Et vous voyez, quand les chrétiens du Proche-Orient ont adopté la langue arabe au moment de la conquête islamique, eh bien ils prient en arabe, bien sûr, les chrétiens d'Orient, c'est devenu leur langue maternelle. Sauf en Turquie, où c'est le turc, bien sûr, mais pour les chrétiens du monde arabe. Lorsqu'ils prient Jésus, ces chrétiens-là, ils ne prient pas Aïssa en arabe. Ils prient Yasou, c'est-à-dire ils ont gardé la traduction araméenne « Dieu sauve ». Vous comprenez? Voilà, alors, donc, ça c'est quand même important, cette différence concernant le nom coranique de Jésus. Je pense que si le Coran appelle Jésus Aïssa, c'est aussi une manière de minimiser l'importance et le rôle de Jésus. Le Coran réfute d'ailleurs formellement la divinité de Jésus. Voilà ce qu'il est dit. Impies sont ceux qui disent que Dieu est le Messie, le Fils de Marie. Je vais vous dire un mot sur le sens du mot Messie là. C'est dans la sourate 5, verset 72. Et puis, le Coran met en scène Jésus face à Dieu, Jésus Aïssa. Il faut, d'ailleurs, quand on parle du Jésus coranique, il faudrait toujours dire Jésus Aïssa, pour être précis. Hein. Alors voilà, donc nous avons Jésus Aïssa qui s'adresse à Dieu. En fait, Dieu lui dit, « Oh Aïssa, est-ce que c'est toi qui as dit que tu es le troisième des trois et tout ça ?» Donc, que tu es membre de la Trinité. Alors Jésus répond, « Non, tu sais ce qui est en moi. » Tu sais ce qui est en moi, toi Dieu, tu sais ce qui est en moi, et moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Sourate 5, verset 116. Autrement dit, le Jésus coranique refuse donc le mystère de Dieu. Hein. Et bien sûr, dit qu'il ne fait pas partie du mystère de Dieu. Alors, impies sont ceux qui disent que Dieu est le Messie, fils de Marie. Le mot Messie, ici, il est utilisé comme synonyme de Jésus, Aïssa. Mais il n'a pas le sens qu'on lui donne dans la Bible et dans l'Église. Il n'y a pas de messianisme dans l'islam, étant donné que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de péché originel, donc pas de rédemption, pas de sauveur. Et le Messie, on sait très bien qu'il est venu, c'est Dieu qui est venu nous sauver. Donc, c'est un titre simplement honorifique, si vous voulez. C'est ce que disent en tout cas les commentateurs musulmans du Coran. Alors, il y a d'autres formules aussi qui peuvent nous troubler. C'est que, par moment, le Coran qualifie, enfin, parlant de Jésus, l'appelle Verbe de Dieu, notamment lors de sa création. Le Coran dit que Dieu a jeté son verbe en Marie, le verbe de Dieu. Mais là, il s'agit de la parole de Dieu, mais pas de Jésus comme parole de Dieu. C'est la parole créatrice de Dieu. Dieu décide de créer Jésus, il insuffle dans le sein de Marie une nouvelle créature par sa parole, par sa volonté, si vous voulez, voyez ? Et puis, je vous l'ai déjà dit, je crois, Jésus dans le Coran n'est jamais appelé le Christ. Le Christ, ça veut dire loin, celui qui est loin, O-I-N-T, du Seigneur. Alors bien sûr, aujourd'hui, comme les musulmans fréquentent beaucoup de chrétiens, il leur arrive de parler de Jésus-Christ, c'est vrai. Mais dans le Coran, il n'y a pas ce nom de Jésus-Christ. Alors, le Jésus coranique est donc, n'est pas sauveur. Il n'a pas donné sa vie pour le salut du genre humain, puisqu'il n'y a pas de péché originel, donc. Dans le Coran, il n'y a pas le récit de la passion et de la crucifixion. Pardon. Il n'y a pas le récit de la passion et le Coran nie la crucifixion. Le Coran dit que les Juifs ont voulu tuer Jésus. Mais il nie cette réalité. Voilà le verset. Ils, les Juifs, ne l'ont pas tué, Jésus Aïssa, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. Sourate 4, verset 157. À ce sujet, j'ai en tête une anecdote qui s'est produite au Liban l'année dernière. Au Liban, les chiites du Liban donc, avaient produit un film sur la vie de Jésus, mais la vie de Jésus selon le Coran, bien entendu. Et alors dans ce film, on montrait que Jésus n'a pas été crucifié, bien que les Juifs aient voulu le faire, mais qu'au dernier moment, ils ont remplacé Jésus par Judas sur la croix. Oui, Judas, oui. Alors ça a suscité un tollé parmi les responsables de l'Église au Liban, qui ont répliqué en disant, mais Jésus est venu sur terre pour donner sa vie pour la rédemption du monde, pour le rachat des péchés du monde. En aucun cas, il n'aurait pu accepter d'être remplacé par quelqu'un d'autre, fût-ce le traître Judas, bien entendu. Ce n'est pas du tout dans la perspective biblique. Alors il a fallu quand même des réactions très vigoureuses pour que finalement les autorités chiites libanaises décident de supprimer ce passage dans la vie de Jésus, parce que ça ne correspondait pas du tout à la vision chrétienne donc de la vie de Jésus. Voyez, il faut comprendre que pour les musulmans, l'idée que Dieu ait pu accepter de sacrifier son envoyé, puisque Jésus, Aïssa, est un prophète, que Dieu ait pu consentir à une mort aussi ignominieuse que la mort de la croix, eh bien tout cela est indigne de la toute-puissance de Dieu. Dieu ne peut pas consentir à livrer son prophète à la mort. Ça m'amène à vous faire une remarque, c'est que dans l'islam, on accorde une importance considérable à tout ce qui est de l'ordre du succès. Mahomet a eu beaucoup de succès, sauf au début, mais après il s'est bien rattrapé à Médine, hein. Et Mahomet n'est pas mort sur la croix, il est mort dans les bras de Aïcha, selon ce que dit la tradition musulmane. Aïcha, sa femme préférée, celle qu'il avait épousée à 9 ans. Bon, tout a réussi à Mahomet, du point de vue temporel. Il est devenu chef d'État, chef religieux, il a gagné de nombreuses batailles, il a fait de nombreux adeptes, il s'est beaucoup enrichi, etc. Alors, du point de vue musulman, tout ce qui est de l'ordre du succès, ça accrédite l'idée que ça vient de Dieu. Vous voyez, une vision totalement à l'opposé de la vision chrétienne, où la faiblesse, finalement, est aussi, pour les chrétiens, la faiblesse est un signe de Dieu, hein, et non pas le succès. Vous voyez, par exemple, le fait que les pays musulmans ont dans leur sous-sol le pétrole, eh bien, ça, c'est le signe d'une bénédiction divine. Et c'est vrai. Alors, donc, dans la logique coranique, évidemment, Jésus, Aïssa, n'a pas été crucifié. Il n'est pas question de résurrection glorieuse, bien sûr. Simplement, il y a quand même un verset énigmatique. Donc, la sourate 4, verset 157, ni la crucifixion, et le verset suivant, le 158, indique que Dieu a élevé Jésus vers lui. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais dans la tradition islamique, on dit que Jésus se trouve dans un ciel intermédiaire, on ne sait pas où il est, ce ciel intermédiaire, d'où Jésus, Aïssa, reviendra à la fin des temps pour confirmer l'islam. À ce moment-là, Jésus priera en direction de la Mecque, en compagnie de Mahomet. Et aujourd'hui, certains musulmans disent que Jésus Aïssa, lorsqu'il reviendra, il se mariera, puisqu'effectivement, les musulmans voient bien que, selon ce que dit le Coran, Jésus ne s'est pas marié comme Mahomet. Et donc, ce n'est pas possible. Vous verrez, quand je vous parlerai du mariage, dans l'islam, il faut se marier. Sinon, on n'est pas obéissant à Dieu. Alors donc, il est normal que quand Jésus reviendra, comme il confirmera l'islam dans toutes ses dimensions, il est évident qu'il prendra une épouse. Et pour beaucoup de musulmans aujourd'hui, cette épouse sera une palestinienne. On dit ça parce que pour montrer l'importance de la question palestinienne au cœur de beaucoup de musulmans dans le monde. J'ai entendu ça dans le monde arabe, c'est vrai, mais bon, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça, de la manière dont le Coran envisage Jésus ?